Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Docteur Jean-Marc Benayem, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous venez de faire paraître aux éditions d'Il Jacob un nouveau livre passionnant dont le titre est tout un programme, L'art de l'hypnose avec François Roustan. Et est-ce que vous pouvez nous présenter ce titre ? Déjà, il y a le mot art. L'hypnose serait un art parce qu'il faut l'aborder avec circonspection, avec finesse, intelligence, créativité. Et François Roustan, cette rencontre magnifique que vous avez faite et avec lequel vous avez travaillé, eu des liens d'amitié pendant 20 ans. Vous l'avez rencontré, il avait 73 ans et il est décédé en 2016. Il avait 93 ans. Ces 20 années ont été très importantes pour vous et vous avez beaucoup parlé, vous avez enregistré avec votre téléphone ou autre vos conversations amicales à bâton rompu avec son accord bien sûr. Et là, ce livre, vous partagez ces conversations que vous avez eues avec François Roustan dans ce livre qui paraît chez Odile Jacob.
Ben, je crois que vous avez tout dit.
Maintenant, il s'agit de déplier tout ce que j'ai dit, amorcé.
Merci à vous. Alors, effectivement, je suis médecin, donc je suis de formation médicale, scientifique, et je dois dire que dans nos formations, peut-être c'est toujours comme ça, hospitalière et à la faculté, c'était plutôt le scientifique qui nous était enseigné, et c'est aussi très bien, bien entendu, mais tout ce qu'on appelle la relation n'était pas vraiment, voire pas du tout abordé, comme si c'était secondaire, alors que pour qu'une personne modifie sa position, voilà, modifie sa façon de voir, sorte d'une dépression, d'une douleur chronique, d'une addiction, sur 70% des patients qui viennent voir un médecin généraliste n'ont pas un problème, heureusement, de tumeur, de cancer, de maladie grave, non, ils souffrent, ils ont des troubles du sommeil, des troubles de l'anxiété, du moral, et les médicaments ayant un effet avec parfois des effets secondaires, parfois des effets positifs évidemment, et ça ne satisfaisait pas vraiment. Alors j'ai découvert l'hypnose avec Léon Chertok il y a donc déjà beaucoup d'années, en 81, et ensuite j'ai rencontré chez Léon Chertok François Roustan, et ce qui m'a intéressé c'était comment pouvoir soulager les souffrances des patients avec peut-être leurs propres ressources. Et c'est ça qui m'a passionné dans le discours de François Roustan, c'est qu'il évoquait les ressources potentielles des patients, tellement qu'il disait que quand un patient vient consulter, eh bien, je dois le considérer tout de suite comme guéri. C'est donc tout à fait l'inverse de ce qu'on a fait dans le film, c'est-à-dire non pas je veux que mes patients soient malades, mais c'est l'inverse, je les considère comme déjà guéris et je ne fais que confirmer cette guérison ou en voie de guérison.
Alors, pour dire un mot sur François Roustan, il est présenté sur la quatrième de couverture de La fin de la plainte, un livre, donc une trilogie qu'il a écrite dans les années 2000, donc en 2000. Il est présenté comme philosophe et psychanalyste. Et puis, dans son livre, en 2009, sur la quatrième de couverture de son livre en 2009, « Le secret de Socrate pour changer la vie », il est présenté comme thérapeute dissident de la psychanalyse. Et là, il redécouvre la fécondité de l'hypnose pour produire une modification profonde de notre regard sur le monde. et sur notre rapport au monde. Alors, il a été jésuite, c'est un homme plein de philosophie, il a fait des études de philosophie, de théologie, il a été membre de la Compagnie de Jésus, c'est un homme plein de sciences. J'ai eu l'honneur de le rencontrer deux fois à l'occasion de, pour mes interviews dans mon émission, en 2000 pour l'interview de la fin de la plainte, et en 2009 pour son livre passionnant, Le secret de Socrate pour changer la vie. Alors, j'ai été éblouie par la profondeur polymorphe oui. de sa culture, et sa liberté au sein de tout ça, oui. De critique, imaginaire. C'est un artiste.
Mais je vous avais vraiment dit la profondeur qu'il avait, c'est-à-dire à la fois une culture immense qui fait que tout était étayé par des fondements élaborés, étudiés, raffinés. Ce n'était pas une improvisation sophistiquée. Non, tout était établi par tous des grands penseurs. Et il voulait surtout, et c'était son obsession, pouvoir conduire le patient au seuil de sa propre liberté. Et comme il était sans arrêt sollicité, aussi bien en tant que jésuite qu'en tant que thérapeute, il a voulu simplifier. Et il disait, mais allons à l'essentiel. N'écoutons pas des patients indéfiniment pendant des mois, des années, en restant immobiles, figés. Intervenons pour proposer quelque chose au patient qui va se mettre à changer parce qu'on lui propose un nouveau regard, et une nouvelle perception qui va modifier complètement la relation qu'il a à son corps et qu'il a aussi à son environnement. Et ça a changé tout, il était fasciné, et moi aussi, en l'écoutant, j'étais fasciné par cette création. Et alors, c'est pour ça qu'on appelait ça un art, c'est parce qu'il y a un côté qui est logique, raisonnement, monsieur, madame, effectivement, vous avez souffert, je vois, l'ambiance était dure à la maison, vous avez été... ou voire battu parfois, ou placé dans un établissement, enfin. Et donc, il y a une logique, ok. Et ensuite, au moment d'approcher ce patient et de comprendre comment on peut l'aider, là, c'est complètement improvisé, artistique, dans le sens où c'est une création, une nouvelle relation qui s'établit pour amener ce patient au seuil de sa liberté. Et ça, c'est l'inventivité du thérapeute qui ressent le patient et qui voit... Mais quel va être le point d'appui qui va permettre à cette personne de changer? Et là, c'est vrai qu'il n'y a pas de protocole. On refuse tous les protocoles figés et on est en relation avec quelqu'un qui souffre et qui va nous donner les clés.
Alors, est-ce que déjà, pour commencer par le début, est-ce que vous pouvez nous parler d'une séance d'hypnose pour ceux comme moi qui n'ont jamais vécu, expérimenté ce genre de relation avec un médecin. Donc, comment ça se passe? Et il y a aussi l'idée que l'hypnothérapeute est là pour vous réveiller. Et si il n'arrive pas à nous réveiller, donc il y a plein comme ça une petite ébullition de petites questions. Présentez-nous une séance d'hypnose, s'il vous plaît.
Bien, alors, je peux vous présenter une séance d'hypnose, qui est dans le livre. Et voilà, François Roustan, on discute, on est au café-restaurant, on papote pour préparer les cours, et de temps en temps, il vient à l'esprit une séance qu'il vient de vivre. Et ce jour-là, il me dit, écoute, voilà, c'est très simple, voilà cette histoire. Il me dit, j'ai vu un patient ce matin. C'était un homme jeune. Il était dans sa vie mal à l'aise parce qu'il était obnubilé par l'amour d'une femme qu'il a connue il y a 3 ans. Mais il a rompu et il est complètement imprégné par cette affection qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Par ailleurs, dit-il, j'ai des ambitions dans mon travail. Je sais que je peux réussir. Mais cette ambition-là elle-même est inhibée. Donc voilà, il ressasse le passé, il est inhibé dans son action, il va voir ce thérapeute, François Roustan, pour essayer de sortir de ses blocages. Alors il dit, voilà, très bien, il le reçoit, il lui dit, installez-vous, laissez-vous ressentir le fauteuil, pourquoi le fauteuil? Parce que le fauteuil, il est calme, parce que le fauteuil nous remet dans le présent, et laissez-vous vous situer, lui dit-il, dans votre existence. comme il faut, non pas dans le passé, non pas dans l'avenir, mais dans votre corps, dans le fauteuil, dans le moment présent. Et il lui dit une chose aussi qui est très forte, « J'insiste, dit-il, sur le fait que c'est le moment pour lui de renoncer à un rêve d'amour et de renoncer aussi à des ambitions qui l'attristent, quitte à retrouver des ambitions d'un tout autre ordre. » La séance dure 3/4 d'heure, 1 heure. Il le laisse comme ça dans le silence. Il revient 1 mois plus tard. Il ne comprend rien du tout à ce qui s'est passé, mais dit-il, il s'est passé quelque chose. Alors il dit oui, allez-y. Voulez-vous savoir d'où ça vient ? Il dit non, c'est pas besoin. 1 mois s'est écoulé, me dit-il, et je vais de mieux en mieux. Et François Roustan dit, je ne sais pas ce qui a provoqué ce changement. Jour après jour, il a renoncé à cet amour impossible, mais il sent que dans son travail, il a beaucoup plus de vigueur, qu'il est beaucoup plus à même de saisir des occasions pour mettre son ambition à profit. Donc, en fait, il a sorti d'un blocage, d'une inhibition, d'une obsession aussi, qui le paralysait et qui dominait cette personne. C'est-à-dire que plus on est dans la tête, et moins on peut agir. Et comme il a senti qu'il était dans la tête avec cette obsession, je suis passé à côté d'un amour qui aurait pu se faire, ben non, s'il ne se fait pas, j'ai des ambitions mais j'arrive pas à les accomplir, parce qu'il est dans la pensée et non pas dans son corps. Voilà, la séance a consisté à le ramener dans son corps, dans le fauteuil, dans le présent, parce que pour retrouver de l'action, ben, faut retrouver le corps et quitter la tête. Et la séance est faite comme ça et le patient dit, je sais pas, je comprends rien. Alors qu'il y a certaines psychanalyses qui peuvent durer, ou psychothérapie, des années, en une séance, le patient a basculé dans un autre mode qui est action, pas d'émotion, je tourne la page, et il y a d'autres nouvelles ambitions comme le thérapeute lui a proposé.
Docteur Jean-Marc Benayem, c'est absolument passionnant, mais moi j'aimerais savoir si on est endormi. Comment ça se passe? Donc je viens, j'ai un souci. Est-ce que je suis endormie? Est-ce que je suis en semi-léthargie? Est-ce que je rêve? Oui. Est-ce que je parle ou bien est-ce que c'est uniquement le thérapeute en hypnose, celui qui fait l'hypnose sur le patient? Est-ce que c'est seulement le thérapeute qui parle? Et corollaire, il y a aussi des patients qui sont ravis de leur psychanalyse. Quelle différence peut-on faire entre la psychanalyse et l'hypnothérapie?
Alors, déjà, on peut dire comment se passe une séance d'hypnose, c'est-à-dire quelles sont les différentes étapes. Alors, il y a schématiquement la première étape, la personne raconte pourquoi elle est venue. Dans cette première étape, la perception est restreinte puisqu'on est sur le problème. Ensuite, le thérapeute propose à l'écoute de ce problème quelles sont les attentes, qu'est-ce qui pourrait modifier. Et si on trouve avec le patient un bon point d'appui qui lui paraît pertinent, alors on peut demander au patient, maintenant, ce serait bien, installez-vous, laissez vos yeux se fermer, et c'est pas du tout l'endormir. Il faut au contraire réveiller ces systèmes de défense. C'est pas du tout le ramollir, c'est pas du tout le manipuler, c'est au contraire le démanipuler, parce qu'il était manipulé par une angoisse, une peur, une obsession, une idée fixe, une souffrance qu'il a vécue, et nous on cherche au contraire à le désinhiber. Et comment on fait pour ça ? Eh bien, il faut que le patient s'installe dans le siège et commence à relâcher quelque chose. C'est-à-dire quoi? Eh bien, la pensée, par exemple, et qu'il puisse revenir dans son corps. S'il veut bien revenir dans ses bras, dans ses jambes, dans le moment présent, qu'il est d'accord pour redevenir souple, à tout point de vue, aussi bien dans sa pensée que dans ses muscles, alors il va se passer quelque chose de radicalement différent. Puisque le patient observe que « Ah, j'ai une autre façon de raisonner. Ah, il se passe quelque chose, je me sens beaucoup plus présent que d'habitude. » Et alors, donc on quitte la perception restreinte où le patient était présent, mais pas vraiment. Il était plutôt absent dans ses ruminations. Le patient est dans la confusion parce qu'on a perturbé quelque chose de ses croyances. On a élargi. Et là, il commence à avoir comme une illumination, entre guillemets. C'est-à-dire, il dit, ah oui, effectivement, je ne l'avais pas vu comme ça. Ah ben oui, si on me le présente comme ça, c'est tout nouveau. Et là, c'est une ouverture vers une autre position dans l'existence. Au fond, on pourrait dire que le patient qui vient, il est comme tordu, vous voyez, vous imaginez, vous prenez un linge comme ça nous arrive pour le lessiver, et on le tord fort, et si on le tord fort, le linge, il ne va pas pouvoir sécher, il va être de travers, et le patient qui arrive, il est comme ça. Et quand il vient à la consultation, eh bien la séance d'hypnose, c'est pour le détordre. Et tout doucement, on le laisse retrouver une position relâchée, c'est pour ça qu'on dit relâchée, c'est pour qu'il se détorde et qu'il retrouve la position normale, celle qu'il avait avant une addiction, avant un trauma, et c'est, il va redevenir lui-même. Quelle est la différence, vous disiez, oui, avec la psychanalyse? Oh, voilà encore une phrase de François Roustan. Il discute avec des amis et il dit « Plus j'avance en hypnose, plus je vois qu'il y a une sorte d'incompatibilité entre psychanalyse et hypnose. » Pas entre les psychanalystes, parce qu'il y a des psychanalystes qui sont tellement bien, tellement intelligents, tellement que finalement tout se passe bien. Il parle de la psychanalyse en tant que thérapie protocolisée, rigidifiée, alors que beaucoup l'utilisent à leur manière. Et un jour, son ami lui dit, « Ah mais alors toi, tu prends la psychanalyse à l'envers. » Il lui dit, « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Eh bien, son ami lui dit, « Tu supposes le problème résolu. » Alors il dit, « Oui, c'est exactement ça. Quand le patient vient, je suppose le problème résolu, je ne m'adresse qu'à des gens bien portants. » Il dit, « C'est ça le principe. Je suppose que quelqu'un qui vient est déjà guéri. » Alors il va pouvoir, à partir de là, voir tout ce qui ne va pas dans sa vie. Et si on ne suppose pas le problème résolu, il dit, on ne peut pas avancer, on est dans la nuit. Donc cette phrase est magnifique, puisque c'est vrai que si on dit au patient, vous êtes toujours dans le labyrinthe, il aura toujours une vision restreinte. Et s'il vient consulter, bien sûr, alors on fait l'hypothèse qu'en fait il est déjà sorti du labyrinthe, sinon il n'aurait pas pu venir consulter. Et donc comme il s'élève au-dessus du labyrinthe, il voit plus large. Et là il va consulter. Donc le thérapeute doit le considérer comme en voie de guérison ou guéri, sinon il n'aurait même pas pu avoir l'initiative d'aller voir quelqu'un. Il dit je suis dans l'obscurité, donc je ne sais même pas ce que je dois faire, il est perdu.
Mmh. Alors il est guéri au moment, entre guillemets guéri, puisque maintenant, il faut voir si, après, dans le temps, cet état bénéfique subsiste. Donc, il est guéri au moment où il vient déposer ses fardeaux à terre, avec confiance, guéri, c'est-à-dire qu'il pense qu'il y a une solution de salut pour lui et que le thérapeute va pouvoir faire quelque chose pour lui. Est-ce qu'on peut dire que guérir, c'est redevenir vivant? Lorsqu'on est parasité par une addiction, une passion pour la cigarette, manger, etc., on est habité, parasité, vampirisé par ces pulsions qui sont souvent délétères, et qu'au moment où... Et donc, on n'est pas vraiment vivant, quoi. On est l'hôte de parasites. Et qu'au moment où ça se relâche par par l'hypnose ou par mille et une choses, c'est là qu'on redevient vivant. C'est là qu'on a une respiration. On est dans le monde, on bouge, dégrisé du malheur qui vous a anesthésié, c'est ça?
Mais alors voilà, vous avez donné le chemin. Effectivement, le patient qui vient, par exemple, c'est vrai que les addictions sont une vraie caricature, mais en même temps, elles expliquent clairement le problème. Il vient et en fait, il est dans une emprise. Pourquoi on le considère guéri? Eh bien, parce que s'il était complètement dans l'emprise, il ne serait pas venu. Il n'aurait jamais pris l'initiative de venir, puisque ceux qui sont dans une emprise, ils sont dans une passivité. Donc ils ne peuvent pas réagir, ils sont submergés par, vous l'avez dit, cette espèce de parasite, de vampire, de prédateur qui les domine. quand il commence à consulter, c'est qu'il commence à se détacher du parasite. Donc on doit les considérer comme guéris pour ne pas les replonger dans la souffrance. Ils ont commencé à bouger. Donc la différence, c'est que le patient qui ne vient pas, ça veut dire qu'en fait il est immobile, il est figé. Et celui qui consulte, il est déjà en train de bouger. Donc notre travail, c'est juste d'amplifier le mouvement qui lui a permis déjà de venir. Et en plus, c'est très valorisant pour le patient parce qu'il dit « Ah, je suis là, donc j'ai vraiment envie de guérir ». Ben oui, sinon il n'aurait pas pu venir. Et c'est très gratifiant, très renforçant, très bienveillant aussi. Et le patient sent que ça y est, l'énergie est là, on m'a compris, on m'a entendu, on me regarde différemment, je ne suis plus une victime, je suis quelqu'un de batailleur qui veut revenir dans la vie et qui ne supporte pas d'être dominé. Il m'arrive même à des patients dire qui sont dans des addictions, alcool, tabac, cocaïne, leur dire « Mais vous aimez, vous êtes amis ?» Parce qu'il y a des gens, ils me disent « C'est mon ami, cette drogue. » Alors je dis « Mais vous avez comme ça d'autres amis qui vous font du mal ?» Et les gens, ils me regardent et ils me disent « Bah non. » Ben, je dis « Mais c'est le cas pourtant. Vous vous laissez maltraiter et vous restez amis avec quelqu'un qui vous maltraite, qui profite de vous, qui vous blesse. » Ben non. Ben alors, je dis, ben alors donc ça vous correspond pas. Cette drogue, ce comportement, c'est quelque chose qui vous domine et il faut reprendre la maîtrise ou le contrôle de votre existence. Et donc c'est ça l'hypnose. C'est est-ce qu'on a les ressources? Eh ben oui, on fait l'hypothèse puisqu'il y a des personnes qui arrivent à tourner cette page pour sortir d'une emprise, et que ce soit d'une substance ou même d'une pensée obsessionnelle qui revient. Et je crois que le Roustan a mis en évidence un des passages de Hegel, où Hegel explique comment un élément qui vient de nous, bien sûr, peut sortir de nous et nous dominer. Par exemple, une envie, une obsession, une idée fixe, un désir, une recherche de plaisir dans une drogue, dans le cannabis. Et cet élément qui s'extériorise grandit, se dilate et nous domine. Et le patient est submergé, n'arrive pas à reprendre le contrôle de sa vie. C'est la substance qui décide de tout. Et c'est ça la thérapie, c'est de sortir ce patient de cette menace qui vient sur lui et qui a pris pouvoir sur son existence.
Alors, docteur Jean-Marc Benayem, est-ce qu'une fois qu'on est sorti du cabinet et qu'on se sent très, très aguerri, très nouveau, est-ce que ça dure après? Est-ce que ce n'est pas comme un appareil qui est branché à l'électricité sur une prise qu'on débranche et puis après ça retombe? Tant qu'il était avec le l'hypnothérapeute, il y avait cette présence chaleureuse, cette attention, cette oui. écoute, ces mots, tout ça, cet accompagnement presque maternel. C'est tout doux et ça, c'est une énergie, c'est une transfusion d'énergie. Est-ce qu'une fois sorti, est-ce que les gens continuent à être guéris?
Alors c'est vrai que c'est un problème. Est-ce que l'hypnose guérit toutes ces affections? Oui et non. Enfin oui, parce que toutes sont guérissables, j'entends, mais pour beaucoup de patients, c'est pas simple de guérir parce qu'ils se sont habitués. Hier, par exemple, je vois une femme qui a 80 ans et elle vient pour arrêter de fumer. Alors, je lui dis, vous avez mis quelques années avant de venir. Et quand on finit la séance, qu'elle a été rentrée très profondément dans la transe pour pouvoir accepter le changement. Et quand elle sort, elle se lève, elle prend son paquet, elle le jette dans la poubelle et elle me regarde, mais elle me dit, est-ce que c'est pas trop tard, à 82 ans, de m'arrêter de fumer? J'aurais dû faire ça avant, c'est là pourquoi je le fais si tardivement. Alors je la regarde, bien sûr, et je lui dis, mais vous êtes vivante, et c'est ça qui compte. On s'en fiche de l'âge, mais vous n'allez plus tousser, vous allez respirer mieux, votre peau va se recolorer, et c'est ça qui compte. C'est protéger ce qui est vivant. Donc elle a hoché la tête, et puis elle a regardé la poubelle, Elle est partie. Et j'étais... Donc, je ne sais pas, peut-être qu'elle va reprendre en disant « ça m'est trop familier ce geste, tant pis pour moi, je me laisse détruire ». Ça arrive, nous avons des échecs, bien sûr, où les patients ont peur de changer parce que le changement, c'est un changement.
Ouais.
Alors que l'habitude, c'est familier.
Ouais, pardon. Je voulais juste dire une bêtise. Je voulais dire, et si cette addiction, la cigarette ou l'alcool ou le chocolat,
l'alcool, oui,
c'était le seul habitant de notre planète, tant il y a de solitude et de détresse chez les gens. Alors vous avez dit, parfois elle le reprend.
Heureusement, ce n'est pas le seul. Il y a aussi l'amitié, il y a aussi la culture, il y a aussi la connaissance, il y a aussi le... Il y a quelques jours, j'ai vu une sportive, mais de haut niveau, voilà, qui prépare d'ailleurs des tournois, des concours, et elle a beaucoup souffert dans sa vie. Et je lui ai dit, mais pourquoi autant de sport avec tant d'intensité? Et elle me dit, quand je fais du sport, je ne pense pas. Et elle dit, parce que j'ai eu vraiment des choses très dures dans mon enfance. Mon père qui est mort d'un accident vasculaire cérébral à 50 ans, ma mère qui est partie aussi d'un cancer du sein. Donc c'était assez très 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 triste ce qu'elle vivait. Et je lui ai dit, mais vous auriez pu faire une addiction. Elle me dit, oui, mais je préférais faire du sport. Et alors, elle est partie dans le sport pour le corps, pour retrouver son corps. Mmh. Et ceux qui vont dans les addictions, c'est pas pour dire, tiens, j'aurais envie de tomber malade. Non, c'est parce que comme ça, ils ont une pause, ils retrouvent le corps, ils font un geste, un tic, un mouvement, et ce geste, ce tic, ce mouvement, leur paraît une pause agréable, et pendant ce temps-là, ils quittent la tête. Et donc, le travail qu'on fait ensemble, c'est qu'on montre aux patients qu'on peut quitter la tête différemment. Voilà, pas du tout en ressassant et pas du tout en se droguant, mais bon, il y a des moyens de tourner les pages. Et s'ils veulent bien tourner la page du passé, s'ils veulent bien rester dans le moment présent et puis non plus se regarder avec critique, alors, et tout ça, on fait ça pendant la transe. On les dit, fermez les yeux, installez-vous dans le fauteuil, très bien, vous y êtes. Laissez ressentir comment vous étiez tordu, comment ça se détord. On fait des exercices. Par exemple, on serre une main très fort et on attend que la main se relâche. Ou bien on laisse le patient tordre son bras et on laisse qu'il détorde son bras parce que je commence à avoir mal. J'ai dit, oui, c'est normal, c'est pour ça que vous avez mal au dos, mal au côlon, mal à la tête. Mm-hmm. Donc, ils font des expériences corporelles, pas intellectuelles. Voilà, parfois, je dis, prenez appui sur le bras du fauteuil et voyez comment votre corps est tout tordu. Et quand vous sentirez que ça respire très mal, quand vous sentirez que vous avez mal au dos, que vous en avez marre d'être en appui sur un faux appui, eh bien, vous corrigerez comme vous voulez. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, les patients se redressent et quelque chose était tordu dans leur vie, dans leur pensée, dans leur corps. Ils se redressent, ils retrouvent l'axe, ils se mettent à mieux respirer et ils disent, là, ils sont bien. Et pourquoi ils ne rechutent pas forcément? Parce qu'ils se sentent bien. Et qu'ils attendaient ça depuis des années. Et ils disent, mais là, je suis trop bien. Je n'ai pas du tout envie de me retordre ou de prendre appui sur de faux appuis. Et donc, on fait des expériences corporelles pour que la personne ressente qu'effectivement, c'est trop confortable. J'ai retrouvé l'état normal et pas question, je retourne dans la souffrance.
Docteur Jean-Marc Benayem, vous avez parlé de transe et moi je vois que c'est pratiquement la première syllabe de transformation. Est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il y aurait un lien entre transe et transformation?
Ah oui, moi je suis tout à fait d'accord avec cette formule puisque on utilise transe. En fait, transe c'est le passage. Voilà, souvent, vous avez raison, parce que souvent il y a un malentendu où on pense qu'on est dans un état bizarroïde,
oui.
Non, voilà qui nous inquiète, un peu allumé, un peu sous drogue. Non, la transe, c'est comment je quitte la perception restreinte, obsessionnelle que j'avais pour une perception élargie. Par exemple, il y a quelques jours, un patient me dit, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé il y a 30 ans, et qui n'est toujours pas digéré. En plus, rien de dramatique, mais une obsession. Alors je lui ai dit, mais c'est normal, vous ne pouvez pas digérer, c'est un grain de poivre. Vous regardez et vous le vivez comme un grain de poivre. Ça pique, c'est brut, c'est désagréable. Et il dit, je fais quoi? Je lui dis, il faut prendre le grain de poivre et l'écraser avec un pilon pour l'émietter et le mettre dans un potage. Et là, ça passe. Mm-hmm. Elle me dit oui. Alors, il me dit, d'accord. Et alors, je lui dis, allez-y. Il ferme les yeux, il rentre dans la transe, puisqu'il faut passer du grain de poivre à... il est émietté dans un potage, et là, ça risque même d'être bon, le potage. Alors, il ferme les yeux, il pille, et je lui dis, ça y est, vous avez bu le potage? Il le fait en imagination, et il le fait en même temps avec son corps, parce que le potage, il le met dans son corps. Avant le grain de poivre, il le regardait en disant « Ah, j'en ai marre de ce grain de poivre, j'arriverai jamais à le manger, il brûle trop, j'en veux pas. » Et là, il l'émiette et il le mange. Mmh. Et le fait de réincorporer quelque chose est thérapeutique et fait qu'il ne fuit plus le problème, il l'absorbe. Et c'est ça la thérapie. C'est d'absorber tous les drames qu'on a pu vivre et toutes les souffrances qu'on a pu vivre de façon à ce qu'elles soient intégrées, digérées. D'ailleurs, souvent on nous dit ça, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne digères pas le problème. Mmh. Parce que les gens, ils ont compris qu'il fallait manger et digérer. Voilà, c'est ce qu'il a fait et... je vais le revoir dans 8 jours, voir ce qui se passe.
C'est-à-dire assimiler le problème, le métaboliser, oui. le digérer, en faire sa propre matière à sa convenance. Je voulais vous demander à vous, docteur Jean-Marc Benayem, comment vous vivez après le décès de François Roustan, qui a rempli de façon magnifique ces 20 dernières années. Est-ce que vous n'avez pas vous-même un traumatisme, un chagrin? Vous faites pour...
Je suis troublé de voir que vous l'avez croisé vous aussi à plusieurs reprises. Parce que
et il m'a fait des dédicaces. Si on se voit, à Strasbourg, je vous montre les dédicaces qu'il m'a faites. Je n'arrive pas à remettre, parce que ça date de 24 ans. La première, c'était en 2000, et après 2009. J'arrive pas à retrouver les enregistrements. C'est sur des CD.
Ah,
mais j'ai cherché, pas trop bien cherché. J'ai encore un espoir. On va voir. Peut-être qu'il va m'aider de l'au-delà. il va m'aider.
Mais alors, c'est un grand manque. Parce qu'on était sans arrêt dans cette complicité, c'est-à-dire une espèce de ping-pong. On allait au café, mais sans arrêt, près de chez lui, bien entendu, au restaurant à Villiers, à Paris. Et alors, comment tu vas? Bon, on déjeune, on blague, on rigole. Et puis, on prépare le prochain cours et il me raconte des cas cliniques. Et moi, pour le provoquer, je fais le naïf qui découvre et qui dit « Mais pourquoi t'as fait ça et t'as pas fait autrement? Mais c'est bizarre, ta réaction est bizarre. » Et donc, vous imaginez... Je n'ai plus ce ping-pong, je parle dans le vide, ou bien avec vous, c'est très sympa, mais avec lui, à chaque fois qu'on discutait, on voyait un nouvel angle pour pouvoir préparer le prochain cours et avoir une nouvelle idée. Après, il venait à l'hôpital avec moi pour les cours à la Pitié-Salpêtrière, et là, il faisait des choses bizarres, il voyait les patients, les collègues en formation, et il leur disait « C'est bon, vous avez bien compris toutes les techniques, oui ?» Et il les regarde, il dit « Oui, on a compris. » Il dit « Très bien, et bien maintenant, oubliez tout. » Et les gens le regardaient avec des yeux ouverts, ils disent « Mais comment ça oublier? On est venu pour apprendre. » Il dit « Oubliez, c'est-à-dire intégrer tout et laissez-vous faire. » Sans protocole, la relation avec le patient est une créativité. Et à chaque fois, il nous inventait des nouvelles choses provocantes, originales. Donc, vous imaginez, il y a un grand manque, c'est vrai, le fait qu'il ne soit plus là.
Mais vous avez écrit ce livre, vous avez recueilli pendant près de 20 ans les propos et les enseignements de François Roustan. On l'a dit, un grand penseur de l'hypnose et un grand ami. Donc ces échanges passionnants, vous les avez rassemblés dans ce livre. Vous continuez à travailler dans ce sens, avec vos propres compétences et puis l'héritage qu'il vous a laissé. Hein.
Oui, bien sûr, je continue parce que... On est porté par cela et de temps en temps, pendant les cours, je leur passe des vidéos, des colloques qu'on a pu faire avec Roustan pour qu'ils voient comment son état d'esprit, pour qu'ils soient teintés. Et donc, je leur propose aussi ce livre qu'on avait fait ensemble sur hypnose et les portes de la guérison. Donc on partage, voilà, de façon à ce que tout le travail, toute l'avancée originale qu'il avait, les teintes eux aussi, voilà, pour qu'ils y pensent quand ils font des thérapies. C'est pour ça que j'ai fini par faire ce livre. Parce que tout était dans le tiroir et je me dis non, c'est trop dommage de laisser tout ça comme ça. Et j'ai passé des heures, des jours, des mois à remettre par écrit tout ce qu'il y avait comme enregistrement de façon à ce que... Et il me dit mais c'est du blabla, c'est du blabla. Je lui dis oui, mais c'est plus vivant qu'un article qu'il a, très sérieux, avec des chapitres. Là, c'est un ping-pong ludique et très vivant.
Voilà.
Et il me dit, bon, vas-y, si tu veux, d'accord. Bon, alors, et du coup, je l'ai fait, et puis il ne saura pas que finalement, j'en ai fait quelque chose.
Alors, docteur Jean-Marc Benayem, avant de vous dire au revoir, je n'arrive pas. Quelle est la prochaine étape pour vous? Qu'est-ce que vous... Le prochain objectif au niveau de votre monde d'hypnose?
Il y a toujours les deux, c'est-à-dire il y a toujours l'activité où on reçoit des patients, il y a de plus en plus de collègues médecins, gastro-entérologues, traitants de la douleur qui nous envoient des patients parce que les médicaments sont un peu moins à la mode. Donc on commence à voir les effets secondaires de certains, de beaucoup de médicaments et de dépendance. Donc de plus en plus, on cherche des thérapies non-invasives, non-médicamenteuses. Donc l'hypnose se développe. Et puis moi, je continue à faire mes formations à la Pitié-Salpêtrière, c'est-à-dire le diplôme universitaire, des modules complémentaires. Et on a toujours beaucoup de collègues, de sages-femmes qui viennent se former. Et puis, très personnellement, eh bien, peut-être que j'ai déjà, oui, sûrement en plus, une bande dessinée que je vais essayer de faire sur les cas cliniques. Non pas sur ce qu'est l'hypnose comme ça, d'une manière un peu trop médicalisée, mais plutôt les cas cliniques qui viennent illustrer. Et puis peut-être faire un autre livre encore, qui est en route lui aussi, sur cette nouvelle voie pour guérir chez Odile Jacob, c'est-à-dire... comment on passe de trop de pensées vers le corps, comment on équilibre, voilà, l'équilibre. L'équilibre chez une personne, c'est d'être moitié avec je pense, je raisonne, je réfléchis, et l'autre moitié je ressens. Voilà. Et c'est parce qu'on a cet équilibre qu'on peut avancer à peu près d'une manière agréable dans la vie. Si on ne fait que penser, il n'y a plus de bonheur, c'est que de la rigueur, que de l'exigence. Si on fait que ressentir, ça peut délirer aussi. Donc il nous faut les deux. C'est pour ça qu'on a deux bras, deux jambes, deux yeux, deux nez, un nez, deux narines. Tout est double parce que l'être humain, il est comme ça. Il faut qu'il navigue sans arrêt d'un côté à l'autre, de la pensée à la non-pensée, de la maîtrise à la non-maîtrise, du savoir au non-savoir. Voilà. Et si on veut bien aller dans cette sorte de danse, eh bien on trouve un équilibre dans notre vie perso et professionnelle, bien sûr.
Je vous remercie infiniment, docteur Jean-Marc Benayem. Je rappelle que vous êtes médecin, hypnothérapeute, ancien praticien hospitalier au centre de traitement de la douleur de l'hôpital Ambroise Paré et de l'hôpital Cochin à Paris, que vous avez créé en 2001 le premier diplôme universitaire d'hypnose médicale au CHU de la Pitié-Salpêtrière. Alors, nous avons parlé aujourd'hui de ce livre absolument extraordinaire d'intelligence, de créativité, de courage, dont le titre est « L'art de l'hypnose » avec François Roustan, et ça paraît chez Odile Jacob. À bientôt, merci infiniment.
Merci beaucoup à vous, au plaisir d'en reparler. Merci à vous.
Merci à vous. Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C. Solange. Ah.